Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler d'une composante invisible ou presque, et pourtant éminemment stratégique de la mondialisation contemporaine, c'est-à-dire des câbles sous-marins, j'ai le plaisir de recevoir Camille Morel, juriste, chercheuse associée à l'IESD, l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Lyon 3, et au CESM, le Centre d'études stratégiques de la Marine, qui n'est pas très très loin d'ici à l'école militaire, autrice surtout d'un petit livre paru il y a quelques semaines et judicieusement intitulé « Les câbles sous-marins » chez CNRS Éditions. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur.
Bonjour.
Alors je vais simplement dire, c'est un thème qui pourrait sembler un peu plus éloigné des perspectives habituelles du collimateur et des thèmes plus directement militaires. Donc on pourrait peut-être s'étonner de consacrer une émission à une infrastructure qui est très largement civile et qui dépasse bien évidemment le seul cadre militaire, puisque c'est un pilier de la mondialisation et plus largement du système planétaire contemporain, disons. Mais d'abord, je vais dire que je le fais déjà parce que c'est une question que je trouve absolument passionnante dans l'absolu et à laquelle on ne prête que très très rarement attention. Mais d'une manière plus spécifique, c'est aussi une préoccupation qui est très directement militaire, parce que stratégique. Alors on va en reparler, mais on peut dire que les câbles sous-marins sont utilisés et instrumentalisés depuis qu'ils existent à des fins notamment militaires et de puissance par ceux qui réussissent à les contrôler. Et c'est notamment un enjeu sur lequel investissent de plus en plus les grandes puissances militaires, qu'il s'agisse des États-Unis et de leurs alliés, de la Russie ou encore de la Chine, pour ne désigner que les principales usual suspects, aussi bien pour protéger leurs câbles comme pour se donner la possibilité d'agir sur ceux des autres. Et je peux signaler que par exemple la France s'est notamment positionnée sur la question, alors sans doute un peu après d'autres, on en reparlera, mais avec des ambitions claires. Récemment, il y a notamment eu une stratégie ministérielle, je crois, des fonds marins en février 2022, et c'est aussi une question et une ambition qui est clairement apparente, aussi bien dans la revue nationale stratégique, il y a quelques mois, on en parlait, c'est un truc depuis les fonds marins jusqu'aux orbites, que dans la loi de programmation militaire qui est en cours d'élaboration et de dévoilement ces semaines-ci. Et pour replacer tout ça, par exemple, dans un contexte stratégique et militaire plus récent, on peut dire que, par exemple, c'est des capacités qu'on a notamment beaucoup évoquées au moment du sabotage des gazoducs Nord Stream, parce que ça a potentiellement impliqué des capacités d'intervention, en l'occurrence de sabotage sur des infrastructures sous-marines, qui ont en particulier été développées avec en tête les câbles sous-marins. Et donc c'est un moment où on s'est notamment demandé qui savait faire ça, et sans grande surprise, ce sont beaucoup la Russie et les États-Unis vers lesquels les regards se sont tournés. Donc voilà, tout le monde s'est rappelé à ce moment-là un peu que le fond des océans c'était aussi important et stratégique, et j'aimerais donc profiter de cette émission pour détailler exactement pourquoi et comment, au travers donc du prisme de ces câbles sous-marins. Alors, première question tout de même, Camille Morel, parce qu'on va voir que ça a beaucoup évolué au fil du temps, mais il faut peut-être replacer le contexte historique de ces infrastructures si critiques. Voilà, très bêtement, quand est-ce que ça commence, cette pratique des câbles sous-marins, cette idée un peu saugrenue de poser des choses au fond de l'océan pour essayer de communiquer entre continents, au point de compter dessus pour les communications à l'échelle planétaire?
C'est une initiative des entrepreneurs privés à l'époque qui voient tout l'intérêt en termes de communication, d'aller plus vite dans les échanges d'informations, puisque milieu du 19e siècle, 1851, la pose du premier câble télégraphique sous-marin dans la Manche. L'idée, c'était de relier alors, historiquement les bourses, hein, la bourse de Londres et de Paris, puis d'aller relier même le continent américain. Et donc, effectivement, là où on avait plusieurs jours de mer pour faire parvenir une information, eh bien, vous allez avoir cette idée magnifique qui va permettre de, en quelques heures, transmettre un message d'un bout à l'autre du monde. Donc,
ça prend quelques heures à l'époque ?
Ça prend, alors, les télégraphes, oui, quelques heures pour faire parvenir un message dactylographie, hein, puisqu'on est à l'époque du télégraphe. Donc oui, il faut...
D'accord. Et alors, on peut dire que dans une première période, bon, comme beaucoup de choses au 19e siècle, il y a un acteur dominant qui est essentiellement la Grande-Bretagne. Donc voilà, peut-être que cette première phase, disons, de diffusion de cette technologie, en tout cas de cette infrastructure, comment est-ce que ça se met en place, comment ça se déploie ?
Alors, ce qui est intéressant avec les câbles télégraphiques, c'est que c'est une initiative donc franco-britannique, comme je venais de le dire. Mais très vite, la Grande-Bretagne, donc, qui est au centre du système financier à l'époque, va prendre les devants et va développer ce réseau de communication dans tout son empire, en fait, hein, pour aller relier les colonies notamment. Et donc on voit qu'il y a un réseau qui est centré sur la Grande-Bretagne. Et peu à peu d'ailleurs, des puissances comme la France, comme les États-Unis, vont chercher effectivement à développer aussi en parallèle cette infrastructure. Mais voilà, il y a cette domination britannique très forte qui court jusqu'au début du XXe siècle, on va dire.
Alors après quoi ? Qui émerge ? À quel moment est-ce que... On va en reparler, parce que c'est intéressant, parce que évidemment, les Britanniques s'en servent pour faire toutes sortes de choses, disons, à leur avantage et dans le cadre d'une stratégie de puissance, mais à quel moment est-ce que ça vient pas être concurrence, mais en tout cas, à quel moment est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui commencent vraiment à émerger ?
Alors il y a cette conscience d'une dépendance qu'il faut dépasser, notamment des Européens, donc de la France et de l'Allemagne, je dirais vers la fin du 19e siècle, avec plusieurs conflits, 1898 notamment, un conflit hispano-américain. On entend qu'il se passe des choses sur ces câbles, qu'il y a de l'information aussi qui est censurée à plusieurs reprises. On a de la crise de Fashoda, par exemple, on voit qu'il y a des interceptions de télégrammes, etc.
La crise de Fashoda, bon, je pensais en parler plus tard, mais on peut le dire, c'est quand même marrant, donc c'est cette expédition, donc l'expédition marchand, enfin bon, c'est globalement un face-à-face en plein milieu du Tchad, et c'est une énorme crise diplomatique, et ce que j'ai complètement appris en vous lisant, c'est que, bah, à ce moment-là, il y a un seul des deux parties, donc c'est une expédition française contre une expédition britannique, et il n'y a que les Britanniques qui sont capables de communiquer avec la métropole, parce que c'est eux qui contrôlent les câbles et donc les messages français n'arrivent pas, quoi.
Exactement. Et donc, du coup, il y a déjà des actions, on va dire, soit de censure, soit d'interception même de ces informations-là. Et les Britanniques, enfin, en tout cas, ça ravive l'idée que c'est stratégique et que cette information, elle est précieuse et que si on n'en dispose pas, eh bien, on a un gros avantage sur les autres parties au conflit ou à la crise. Et donc, se développe cette prise de conscience peu à peu. Alors, c'est une conscience politique, essentiellement. Il n'y a pas forcément les financements qui suivent. C'est des questions qui sont débattues longuement.
Ça coûte cher à l'époque ?
Alors, c'est une question un peu compliquée parce que c'est des financements qui sont privés essentiellement, mais l'État subventionne ces infrastructures. Donc, on a, en fonction de la longueur du câble, en fonction de la distance, la destination reliée, en fonction de pour qui est-ce qu'on pose ce câble, il va y avoir, ça va faire varier grandement le prix du câble. Ce qui est sûr, c'est que l'usage de cette technologie-là, en tant qu'utilisateur, elle est encore coûteuse. Donc, c'est un usage qui est essentiellement réservé à une élite de la population. Mais donc cette prise de conscience peu à peu qu'on dépend d'un système qui appartient, un système d'infrastructure qui appartient à un État et que c'est quelque chose qu'on doit dépasser pour la souveraineté, mais également voilà, en cas de conflit aussi, hein, puisque se cristallise certaines tensions, émerge à la fin du 19e siècle et début du 20e, je dirais que c'est à ce moment-là que finalement il y a des crédits, il y a des alliances aussi qui sont passées, des coopérations en tout cas, entre les États, notamment la France et l'Allemagne par exemple, pour dépasser ce monopole. Donc il y a un peu un différentiel entre le moment où la conscience politique naît, cette importance de développer ses propres lignes, en tout cas d'être en mesure de passer non pas par le réseau britannique, mais un réseau...
C'est très bien de faire confiance aux Britanniques, mais peut-être pas trop...
Exactement.
Peut-être pas trop non
On
plus.
On ne sait jamais ce que l'avenir réserve. Et le moment où il y a finalement des crédits qui sont dégagés, et là, on voit que typiquement, la parole n'est pas forcément suivie d'actes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un différentiel. Finalement, les seuls qui vont vraiment prendre la mesure de cet investissement et qui vont formellement subventionner des lignes, ça va être les États-Unis, qui progressivement, au cours du XXe siècle, vont développer leur propre réseau. Et puis plus généralement, voilà, vont commencer à recentrer peu à peu leur politique, même sur les communications internationales, et toute cette idée qu'il faut pouvoir rayonner par l'information, et donc au-delà des câbles, même par les satellites, etc., l'investissement va être massif à ce niveau-là.
Ouais, c'est intéressant, parce que les États-Unis, donc ça commence pendant, vous indiquez que ça commence pendant l'entre-deux-guerres, globalement, mais pendant longtemps, c'est pas du tout une concurrence significative, et c'est vraiment, bah, comme à l'instar de beaucoup d'autres choses, mais c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que vraiment le réseau américain commence à s'imposer, et avec ce réseau-là, aussi tout un tas de normes, et même une idéologie qui est derrière, en fait, cette extension quoi, de ces lignes de communication.
Exactement, c'est l'idéologie qui va prendre du temps finalement à naître, mais qui ensuite va donner de l'ampleur à cette ambition, même s'il y a effectivement déjà des investissements formels, mais avant de compenser ce retard, voilà, il y a un temps quand même qui s'écoule qui est assez important, et donc la Grande-Bretagne garde un peu cette mainmise sur un temps long, et c'est ce qui se traduit ensuite, d'ailleurs, dès la Première Guerre mondiale, on voit que la majorité du réseau est encore possédée par la Grande-Bretagne, et donc c'est aussi pour ça qu'elle va pouvoir agir et être en mesure d'agir stratégiquement dessus.
Mais alors, comment est-ce qu'on caractériserait, donc, puisque là on est dans la deuxième moitié du XXe siècle, comment on caractériserait cette idéologie, mais, parce que l'idéologie n'est pas que l'idéologie, il y a aussi des normes, des conventions, etc. qui en découlent. Voilà, comment est-ce que ce système, largement à l'initiative et dépendant des États-Unis, façonne en quelque sorte les télécommunications à l'échelle mondiale, quoi?
Ah bah c'est une vaste question. Il y a un ensemble de mesures, donc d'idéologie, et donc qui donne lieu, comme vous le disiez, à tout un ensemble de normes notamment. Et on voit que ces investissements financiers, ils comptent beaucoup dans la réalisation des autoroutes de l'information, de l'investissement dans les satellites. On parle aussi beaucoup moins des câbles sous-marins à partir de 1950, parce que les satellites prennent le relais et qu'il n'y a plus de sujet. Les câbles sous-marins à cette époque-là, c'est plus du câble télégraphique, c'est du câble coaxial. Et ils sont moins performants que les satellites qui sont naissants et qui... Voilà, qui impressionne aussi, il y a cette idée que ce qui est spatial vend du rêve aussi à ce moment-là. Donc on ne parle plus des câbles sous-marins, mais par ailleurs ça fait partie de cet ensemble de communication. Et progressivement les États-Unis vont aussi investir dans tout ce qui est lié au numérique. Enfin peu à peu, on va arriver sur l'émergence d'Internet, à la fibre optique. Et c'est à ce moment-là où les États-Unis sont déjà finalement au centre d'un système qu'ils ont conçu et qu'ils ont pensé pendant toutes ces années.
Mais alors, du coup, avec Internet, enfin, alors, il y a Internet qui, évidemment, est largement dominé par les États-Unis, aussi bien technologiquement que structurellement. Enfin, c'est ce que vous nous indiquez dans les premiers temps, les premières années, même les premières décennies. Mais on peut dire que maintenant, on est un peu arrivé dans une nouvelle ère où il y a d'autres acteurs qui sont plus privés. Donc, il y a des logiques différentes et puis il y a aussi des leviers différents pour eux. Mais c'est notamment ce qu'on appelle souvent les GAFAM, mais d'une manière générale, les entreprises privées technologiques qui investissent massivement. Donc voilà, en quelque sorte, à quel moment est-ce qu'on entre, si tant est qu'on y soit vraiment, dans cette ère des GAFAM pour les câbles sous-marins, et quelles conséquences est-ce que ça a ? Qu'est-ce que ça change ?
Alors les GAFAM, ils investissent progressivement à partir de 2010.
Donc GAFAM, je ne l'ai pas dit, mais rappelons que c'est Google, Amazon, Microsoft, Apple et Facebook.
Exact, les géants du net américains s'introduisent dans ce marché à partir de 2010. Ils investissent d'abord en participant au consortium d'opérateurs qui sont en général le format d'investissement dans les câbles sous-marins. Donc ils deviennent propriétaires d'une part de ces câbles. Et puis, très rapidement, en fait, ils se rendent compte que leurs besoins en transfert de données augmentent parce qu'on utilise de plus en plus ces géants du net et les contenus qu'ils fournissent. Et donc, il va y avoir un besoin et une volonté de s'autonomiser de certains coûts qui sont liés au passage de ces gens du net par les opérateurs de communication qui font payer le prix fort à ces fournisseurs de contenu.
C'est-à-dire, pour le dire clairement, c'est genre Orange ou AT&T ou ce genre de ça qui vendent de la bande passante, pas exactement ça, mais pas loin, à ces grandes entreprises qui en ont tellement besoin qu'ils en ont marre de se faire tomber la laine sur le dos à chaque fois.
Exactement, quoi. Et puis ils se rendent compte aussi qu'au-delà des coûts, il y a disons, une maîtrise intéressante à obtenir de ces câbles. Ça veut dire qu'en investissement peu à peu seul dans cette infrastructure, ou alors en petit consortium, on a même parfois parlé de clubs parce qu'ils sont à 4-5 sur des câbles, et puis ils investiront tout seuls ou à deux. Ils sont maîtres finalement à la fois du tracé de ces câbles sous-marins, donc ils vont pouvoir relier directement leurs data centers qui sont de plus en plus répandus sur le globe, choisir le tracé, choisir aussi la manière dont ils vont sécuriser ces lignes de communication, et donc ça répond un peu à une maîtrise voilà, verticale de toute la chaîne de valeur.
Et c'est tout bête, mais c'est libre. Enfin, je veux dire, si vous et moi on met beaucoup d'argent, on peut faire passer un câble sous-marin par où on veut.
C'est une très bonne question. Oui, vous pourriez avec pas mal
pas,
d'argent.
Il n'y a pas un monopole plus ou moins étatique, enfin, ou une autorité globale qui dise vous avez le droit de faire ça.
Pas du
ça.
Tout. Vous devez. La seule condition, on va dire, c'est que vous ayez plusieurs centaines de millions d'euros pour investir dans ces câbles. Et
supposons qu'on ait les poches très profondes, vous et moi.
Un investisseur reconnu et que vous ayez l'autorisation des États, parce que c'est ce qui est nécessaire pour la pose des câbles dans les eaux, enfin dans les eaux et sur le territoire sous souveraineté. Vous avez des demandes d'autorisation qui peuvent varier en forme.
Et globalement, les États ont peu de raisons de refuser puisque ça connecte encore plus leur territoire. Donc
tout à fait, si ce n'est peut-être pour des raisons de sécurité nationale, ce qui se pose aujourd'hui comme sujet, mais qui n'était pas forcément un argument qui était auparavant entendu.
Et donc, alors, il y a ces câbles sous-marins qui aujourd'hui... Alors, déjà, c'est tout bête, mais enfin, les États continuent à poser des... Enfin, parce que, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a une perméabilité publique-privée depuis le début. Il y a des choses qui sont souveraines, des choses qui ne le sont pas. Vous indiquez très bien dans le livre qu'en fait, il y a plein d'opérateurs qui sont plus ou moins privés, mais qui sont nationaux. Enfin, en France, on a Alcatel qui est un géant de ça, enfin, qui est un fleuron de ce point de vue-là. Donc voilà, dans quelle mesure est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, quelle place ont par exemple les GAFAM là-dessus, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les câbles sous-marins, donc, c'est un peu une infrastructure à part, dans le sens où, comme c'est représenté, même à l'époque télégraphique, un investissement colossal où il y avait une prise de risque, puisque c'était une infrastructure auquel il fallait croire, hein, quand même, se dire, tiens, on va poser dans un milieu qu'on ne connaît pas, le maritime, des câbles, c'est vraiment arrivé par ces investisseurs privés. L'État est venu très rapidement, parce qu'il y a vu un intérêt, évidemment, social, économique, en toute forme, stratégique aussi, donc il est venu soutenir, subventionner des infrastructures, mais c'est globalement, sur l'histoire des câbles sous-marins, c'est quand même resté quelque chose d'assez privatisé, si ce n'est à l'exception, j'allais dire, de certaines périodes de nationalisation. En France, par exemple, la période des PTT, les câbles sous-marins étaient sous l'égide du ministère. Et donc là, on avait vraiment voilà, une réflexion et un financement étatique de ces câbles. Mais à partir des années 90, au moment de la privatisation du secteur des communications internationales, vous avez les acteurs privés qui vont devenir les seuls, finalement, les seuls acteurs de ce marché. C'est un marché qui est divisé en trois grands secteurs, segments. Le marché de la production, donc vous évoquiez ASN tout à l'heure. Donc c'est vraiment l'acteur qui est en mesure de poser et de réparer, de produire ces infrastructures et les équipements dédiés. Il y a les armateurs qui posent et qui réparent les câbles sous-marins. Et puis, il y a les opérateurs, les investisseurs, qui sont là des propriétaires de câbles sous-marins. Et c'est en effet sur ce segment-là, des propriétaires, que notamment les géants du net qu'on évoquait viennent et s'introduisent sur le marché. Mais aujourd'hui, en tout cas, les GAFAM ne produisent pas eux-mêmes les câbles. Et ils ne les posent et ne les réparent pas eux-mêmes. Donc, ils font toujours appel aux deux autres segments.
Ça viendra peut-être un jour dans ce désir toujours plus fort d'intégration verticale.
Dans tous les cas, ils ont déjà restructuré un peu ces deux autres segments, alors même qu'ils n'interviennent que sur le premier, tellement leur arrivée et leur ampleur sur le marché est importante.
Mais alors du coup, bon, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est le truc très concret, c'est quoi, alors, ça ressemble à quoi un câble non, concrètement, parce que, on va le dire, mais c'est vraiment des artères de la mondialisation et des communications, mais... C'est quoi ces câbles? Visuellement, ça ressemble à quoi?
Physiquement, c'est un tuyau. Enfin, c'est ce serait un tuyau de la taille d'un tuyau d'arrosage à peu près. Et donc, c'est une liaison entre finalement.
Pas plus qu'un tuyau.
Alors, le câble en lui-même, il évolue en fonction de là où il est posé. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple. On va prendre un câble qui est posé entre la France et les États-Unis, et on va dire que ce câble, il va pas avoir la même morphologie tout au long de son déroulé sur le globe. Donc, vous allez avoir dans les zones qui sont finalement proches des côtes, là où il y a d'autres risques pour la navigation, des ancres de navires, des filets de pêche, etc., qui peuvent endommager le câble il va être ensouillé non seulement sous le sable, mais en plus il va être recouvert de plus d'épaisseur que là où il est finalement posé dans le fond des mers, au fond des océans, où il est protégé par la profondeur dans laquelle il existe. Donc vous allez avoir des couches d'épaisseur qui vont être plus ou moins importantes, donc une taille qui va grossir, mais la taille moyenne du câble, et notamment quand il est dans les profondeurs, c'est effectivement ce tuyau d'arrosage. Maintenant, évidemment, si le câble, quand il arrive près des côtes, il va être de plus en plus gros et il va être évidemment protégé par des systèmes plus importants.
Mais les trucs qui passent à l'intérieur, ça fait pas plus que le diamètre d'un tuyau.
Ah bah c'est de la fibre optique, donc c'est vraiment très fin. C'est des fils de verre, en fait. Hein. Il y en a plusieurs paires. On parle de paires de fibre optique. Et aujourd'hui, on en a une douzaine en moyenne dans un câble sous-marin.
Et juste, c'est très bête, hein, mais ils sont fixés ?
Alors, ils peuvent bouger, donc non, il y a des endroits où ils peuvent être fixés, ces câbles. Des zones, par exemple, quand ils traversent des zones sensibles d'un point de vue écologie. Je pense notamment aux abords de Marseille, par exemple, où il y a des zones qui sont préservées. Donc là, pour éviter que le câble bouge, parce qu'avec les fonds et le mouvement, il va finir par bouger à un moment donné, alors pas énormément, mais il va se déplacer, on va le fixer à certains endroits. Sinon, comme je vous l'ai dit, il est parfois ensouillé, donc il est enterré sous le sable, ce qui permet de le protéger et puis de le stabiliser aussi.
Mais enterré sous le sable, je vais poser des questions hyper concrètes, mais ça veut dire qu'on est allé creuser, ou ça veut dire juste qu'on l'a posé, il va finir par s'enfouir ?
Non, il y a des robots maintenant aujourd'hui, et donc ces robots font avec un jet d'eau, font une espèce de sillon et dans lequel on va aller glisser le câble.
Okay.
Donc le câble sera posé dans ce sillon, il ne sera pas forcément recouvert, il va se recouvrir de lui-même, mais par contre le sillon va être fait pour éviter les difficultés.
Et ça c'est fait tout le long de la pose du câble ?
Alors surtout sur les zones sensibles, donc globalement aux abords, dans les eaux profondes, les eaux il y a beaucoup de passages maritimes, et donc globalement c'est près des côtes en fait, ou dans certains passages étroits.
Et ouais, parce que du coup ce que je me demande c'est s'ils ne sont pas fixés, comment on sait où ils sont ? Parce que si c'est un truc qui n'est pas fixé sur des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres, rien qu'avec le mou, quoi, enfin avec le jeu, j'imagine que ça doit pouvoir varier plusieurs centaines de
bouge,
mètres.
Ça bouge, en effet. Et par contre, il y a quand même le poids de ce câble hein, sur des milliers de kilomètres qui maintient le câble. Donc, typiquement, les opérateurs vous disent, effectivement, ils savent exactement où ils le posent. Donc, dans la cartographie, ils ont bien le chemin, le tracé qui a été étudié et réfléchi. Maintenant, il y a une marge d'appréciation. Par exemple, quand il faut aller les réparer, on ne sait plus exactement où il est. On sait globalement par où il passe, mais par contre, on va laisser traîner un grappin. Généralement, c'est ça. Pour aller réparer un câble, vous avez une vague idée dans la cartographie, vous faites une triangulation et puis vous posez votre grappin.
Vous faites
et
une triangulation parce que ça émet quelque chose. Vous pouvez
non, c'était simplement dans l'idée que vous avez globalement
vous avez une
idée de là où il était placé en position GPS par exemple, mais vous savez qu'il y a cette marge d'appréciation d'évolution et donc vous allez poser le grappin à cet endroit-là et puis le laisser glisser, avancer avec le navire jusqu'à attraper le câble et sentir que le câble est bien là. Mais donc il y a cette petite recherche à réeffectuer.
Et donc, c'est un tuyau d'arrosage avec dedans des fibres optiques.
La fibre optique entourée de plastique, parce qu'il faut un isolant, évidemment, pour permettre cette communication. Il y a de l'électricité un petit peu qui passe aussi par ce câble, puisqu'il faut réimpulser le signal lumineux à travers la fibre et sur ces kilomètres entiers.
C'est-à-dire, c'est un peu comme un répétiteur de Wi-Fi, quoi. Il faut augmenter le signal parce qu'il y a
une déperdition, exact. Ouais.
Ok. Et... c'est tout bête, mais du coup, puisque j'y pense, puisque maintenant on est à la fibre optique et qu'avant on n'y était pas, les vieux câbles, ils sont toujours là ou on les a enlevés ?
C'est une vraie question. Alors, les câbles télégraphiques, alors il y en avait beaucoup moins, hein, évidemment. Aujourd'hui, on est à 500 câbles dans le fond des mers. Il y en avait vraiment beaucoup moins, mais ces câbles sont toujours présents. Alors, pour une partie, c'est-à-dire qu'il y a des parties de câbles qui ont été... Alors, il y a des câbles qui ont déjà été enlevés, et notamment dans l'histoire militaire, c'est assez intéressant parce qu'on a retiré puis on a réutilisé ces câbles à d'autres endroits. Et il y a des câbles dans la haute mer, donc dans la partie finalement qui est en dehors de la souveraineté des États, il y a des câbles qui sont toujours présents et aujourd'hui.
Oui, ce serait galère à l'air, trouver.
Par contre, il y a un business model qui se crée, et donc il y a des entreprises aujourd'hui qui sont spécialisées dans la récupération de ces câbles inutilisés, inactifs, qui sont des câbles télégraphiques ou coaxiaux, dans lesquels il y a du cuivre notamment, et qui peuvent être réutilisés pour leur matière première aussi.
Et alors, du coup, donc maintenant qu'on a la fibre optique, ça me transmet combien, quoi, enfin, et surtout, à quelle vitesse ça a progressé ou pas, enfin, c'est-à-dire, c'est... Je veux dire, si on pense que, je crois que c'est 80, vous donnez un chiffre quelque part, c'est 90%, 98% des données.
Alors, c'est un chiffre qui est assez contesté, mais c'est environ, on dit qu'il y a environ 98% des communications internationales, donc en lien avec la fibre terrestre, hein, il y a un relais qui est fait. Donc tout ce qui va nécessiter finalement un transfert de données à l'échelle internationale pour lier les continents entre eux, eh bien à 98%, on dit que ça va passer par ces câbles sous-marins. C'est surtout en réponse à, finalement, le satellite là-dedans ne joue qu'un rôle très mineur.
Ouais, on va reparler, mais du coup, 98%, tuyau d'arrosage, ça fait... Enfin, je sais bien qu'il y a beaucoup de trucs qui passent par une fibre optique, mais ça a l'air quand même petit pour un truc qui innerve toute l'information mondiale, quoi.
C'est ça qui est surprenant, c'est aussi pourquoi on parle si peu de ces câbles alors que leur rôle est finalement primordial. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui la capacité moyenne d'un câble sous-marin, dans l'Atlantique notamment, c'est 60 terabits par seconde. 60 terabits par seconde.
J'ai aucune idée de ce que ça représente.
Alors, en fait, c'est très difficile de chiffrer ça, mais on est bien à l'heure du big data aujourd'hui et c'est un échange massif de données. 60 terabits par seconde, c'était la moyenne. Aujourd'hui, les derniers câbles qui ont été posés par les géants du net, c'est plus de l'ordre de 250 terabits par seconde. Donc vous voyez, on a plus que doublé en fait la capacité de ces câbles. Donc nos besoins évoluent, mais en fait c'est l'ensemble des communications, donc même des appels téléphoniques qui vont passer vers l'international et des données qui effectivement nécessitent d'aller chercher de l'information sur un autre continent ou sur un serveur qui est situé à l'extérieur. Maintenant, dans tout ça, il y a un flot d'informations et c'est difficile de discriminer en gros ce qui passe vraiment par les câbles sous-marins parce que on n'est plus dans une chaîne de transmission globale où, comme je le disais, il y a des câbles terrestres, il y a des satellites, il y a de la 5G, il y a des antennes relais. Et tout ça, en fait, en tant qu'utilisateur, on a une perception un peu erronée. On n'a pas conscience vraiment du chemin par lequel va passer notre donnée.
Oui, c'est-à-dire, si on a un appel WhatsApp, je sais pas, en Afrique, par exemple, spontanément, on a tendance à se dire que...
C'est du Wi-Fi, ça va passer par les airs.
Que ça passe par les airs,
alors
que pas du tout.
Il y a un moment donné où, effectivement, ça va bien aller sur une borne relais qui sera en Wi-Fi. Et puis, de cette borne relais, on va aller relier par du terrestre une zone géographique sous-marine. Et puis, ensuite, à une station de câble qui va relier l'Europe, si on est en France.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est... Parce que c'est vrai, vous le dites, mais c'est totalement vrai. On parle beaucoup plus des satellites, et notamment si on se réfère à ce qui est Internet. Enfin, on parle énormément de Starlink, par exemple, des constellations qui seraient capables de donner la 3G, 4G, 5G. Voilà, de manière. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on pense la complémentarité et même la proportion de l'un par rapport à l'autre, quoi?
Ce sont des usages qui sont différents aujourd'hui. En fait, la technologie sous-marine, c'est ce qu'il y a de plus fiable aujourd'hui, et c'est en termes de capacité, en termes de latence, donc en termes de vitesse de transmission pour une capacité de données, c'est le moyen le plus performant aujourd'hui de faire transiter cette information. Maintenant, effectivement, tout ce qui se développe, déjà les satellites ont un rôle important, par exemple, pour tout ce qui est en mouvement, des activités comme celle des navires, ne peuvent pas se priver de l'usage des satellites, parce qu'on est en mouvement, parce qu'on est sur des zones qui ne sont pas relié physiquement par de la fibre, parce qu'on est en mouvement permanent, et donc la nécessité de ce satellite. Maintenant, tout ce qui est aussi constellation, donc le développement de ces constellations satellitaires, etc., basse orbite, c'est l'idée que, c'est, en tout cas aujourd'hui, hein, et ça peut très rapidement changer, mais aujourd'hui c'est vraiment un usage complémentaire dans l'idée que c'est des zones qui sont mal reliées, pour lequel il n'y a pas d'investissement dans l'infrastructure physique. Typiquement sur le continent africain, on voit qu'il y a des câbles sous-marins qui arrivent, il y en a de plus en plus, qui desservent certains des pays, pas tous évidemment, mais derrière la diffusion de cette information au sein des terres et au sein des différents États, elle est très mauvaise, parce qu'il n'y a pas cet investissement infrastructure terrestre. Hein. Et donc là, il y a des usages qui vont être indispensables. Il faut savoir que le satellite, ça coûte beaucoup plus cher aussi, donc il faut avoir les moyens de les poser, de les mettre en œuvre. Et finalement, pour une capacité qui sera inférieure. Donc vous allez de toute façon pas faire transiter autant d'informations de manière aussi fiable en un même temps.
Ou aussi pour des raisons de redondance, comme on l'a vu beaucoup en Ukraine notamment, parce que ça permettait de mettre moins de pression sur des infrastructures qui sont en tout cas en apparence plus vulnérables que sont les câbles.
C'est intéressant aussi cette perspective de résilience, c'est que souvent on peut croire que par exemple entre des territoires qui seraient limitrophes ou en tout cas qui seraient très proches physiquement reliés par le terrestre, on va parfois privilégier le câble sous-marin. Pourquoi ? Parce que, donc, un, c'est moins cher parfois. Et effectivement, il y a toute cette problématique de souveraineté. C'est-à-dire que, bah, à partir du moment où vous allez traverser les territoires physiques des États, vous allez demander des autorisations, etc., que vous n'allez pas forcément avoir besoin de demander en passant par le maritime. Donc, il y a cette idée que. Ou par le satellite au niveau spatial. Donc, il y a bien ce relais. Et effectivement, on voit la pertinence de ça en temps de conflit, d'avoir différents moyens, différents usages. Ce qui est sûr, c'est quand il y a des territoires qui sont isolés parce qu'il y a des dommages sur les câbles ou autres, évidemment, le satellite prend le relais pour au moins une partie et les communications les plus essentielles. Mais ça oblige de parvenir à discriminer aussi ces flux. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas
Ah, c'est-à-dire les informations stratégiques ou.
Qu'on souhaite faire passer en priorité.
Plutôt que des séries Netflix. Potentiellement. Mais alors, du coup, vous avez commencé à parler, mais même en termes de distribution géographique, c'est très. Enfin, on peut avoir des suppositions assez faciles que globalement l'Europe, l'Amérique, voire l'Asie, ça va être assez bien connecté. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette géographie globale des câbles sous-marins, quoi ?
Alors, quand on regarde aujourd'hui la carte de cette toile mondiale, il ressort déjà que cette toile est centrée, moi je dirais, sur la triade, assez schématiquement, mais on voit bien qu'il y a ces trois points réémergents, Asie, Europe, États-Unis, Amérique du Nord. Et il y a l'idée qu'il y a trois voies principales des câbles sous-marins, l'axe transatlantique, donc Europe, États-Unis, l'axe Europe-Asie passant par la mer Méditerranée, la mer Rouge, etc., le canal de Suez, et la voie transpacifique, j'aurais dû même dire dans l'ordre, transatlantique, transpacifique, et Europe-Asie passant par le canal de Suez, qui sont les trois voies majeures de la donnée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons, mais aussi parce que les utilisateurs sont en premier lieu dans ces zones-là. Maintenant, il y a des zones qui explosent aussi aujourd'hui. La zone en Asie, on va dire, les échanges interasiatiques de données sont en croissance forte parce que la démographie augmente, parce que les besoins et les usages évoluent. Et évidemment, l'Afrique.
Et donc, ça, typiquement, il passe notamment par des câbles sous-marins plutôt que par des voies terrestres.
Alors, il y a les deux, hein, évidemment. Mais effectivement, en plus, en Asie, on a cette problématique. Des îles assez nombreuses, et donc il faut pouvoir passer, et là pour le coup il n'y a pas d'alternative possible par le terrestre, et donc il y a cette nécessité. Donc c'est des câbles qui sont un peu plus petits, mais qui donc ils vont avoir aussi peut-être une capacité inférieure, mais qui vont vraiment répondre à des besoins précis entre deux pays. On a plus de câbles bilatéraux, trilatéraux, là où parfois, par exemple sur l'axe Europe-Asie, on va avoir des câbles qui sont vraiment multilatéraux avec 20-30 États qui sont reliés, et du coup 20-30 opérateurs aussi derrière qui viennent soutenir et investir dans ce câble.
C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas passer directement un câble plus gros en prévision d'un trafic qui de toute façon finira par exploser, quoi ? Quel est l'intérêt de faire passer des petits câbles ?
Alors, y a plein de choses. Déjà, c'est le financement du câble, qui est à l'origine de ce câble-là, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre dans ce câble et pour quels usages ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les câbles qui sont portés par les géants du net, par exemple, ne répondent pas à la même logique d'investissement, aux mêmes usages, que des câbles qui sont portés par les consortiums d'opérateurs. Typiquement, les câbles des géants du net, ils vont permettre de transporter uniquement du flux en fait, qui répond à ces géants du net. Donc un câble qui serait posé par Google ne sert que au contenu Google, à l'exception d'une ou deux paires de fibres qu'ils vont parfois louer ou vendre à un opérateur de communication. Mais ça sera vraiment à la marge. Alors que les câbles, qui sont posés, enfin qui sont investis en consortium d'opérateurs, là on est vraiment sur du tout venant, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de ce câble plusieurs opérateurs avec plusieurs clients derrière, vous, moi, des entreprises, des États parfois, et tout ça va être réuni dans un même câble. Et ce flux-là, en fait, il est global et on peut plus facilement, disons, se dire qu'on va investir dans une grosse capacité sur un câble qui est multiple plutôt que sur un câble dédié à un usage particulier. Il y a des câbles qui sont dédiés par exemple à la finance. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et donc, là, vous avez un schéma de commande très clair. C'est que vous avez des anticipations, évidemment, sur combien il y aura de transactions dans quelques années, etc. Vous pouvez anticiper, mais vous avez aussi une commande qui est assez claire. Et le deuxième point pour répondre à votre question, c'est aussi que la capacité des câbles, elle augmente. C'est-à-dire que, finalement, un câble qui était posé il y a 10 ans avait une capacité inférieure à celle qui est aujourd'hui posée. Vous avez un plus grand nombre de paires de fibres optiques et vous avez une capacité par câble qui augmente. Et ça, c'est la recherche et le développement qui permet aussi de dépasser ça. Et donc, finalement, en soi, on aurait besoin peut-être à terme de moins de câbles parce que ces câbles auront une puissance supérieure à ce qui était auparavant.
Mais même sur ce que vous indiquez là, sur le côté, les contenus Google passent par. Enfin, vous voyez, si Si j'ai, sur mon ordinateur, j'ai plusieurs onglets, un sur Google où je fais une recherche Google et un autre sur où je fais complètement autre chose, l'information passera pas par le même câble, potentiellement?
Alors, c'est complexe de répondre à cette question parce que, justement, ça va dépendre de votre opérateur, ça va dépendre de... Vous voyez, de quel est le cheminement, en fait, que va prendre le câble.
Ce qui est sûr... Parce qu'on va y venir, c'est très stratégique aussi d'être capable... Enfin, est-ce que si on couple un câble, c'est seulement certains contenus qui sont... interrompu, ou est-ce que de toute façon, parce qu'on peut dire que Internet, c'est des paquets de données distribués, donc c'est hyper compliqué de savoir par où passe telle information d'une manière générale. Comment ça se passe, quoi?
C'est impossible de répondre à cette question aujourd'hui. Je pense que c'est... On sait sur certains câbles qui ont effectivement des usages dédiés. Donc, par exemple, si vous savez que c'est un câble Google, bon, vous savez globalement que ça va être tous les flux en lien avec ce fournisseur de contenu qui vont être impactés. Malgré tout, ce fournisseur de contenu, il existe sur plein de volets différents, d'activités différentes, je ne sais pas, du stockage de données peut-être, de la recherche, du streaming en ligne. Et donc, vous ne savez pas, même en coupant ce câble-là, finalement, vous ne savez pas vraiment qui vous allez impacter. Et je crois que c'est une question qui mérite d'ailleurs des efforts de recherche. Enfin, c'est toute l'idée d'essayer de cartographier les flux, de comprendre par où ça passe et comment ça passe. Et parce qu'on se fait une idée aussi, on se construit une représentation de ce que c'est cet Internet et de par où passent ces flux. Et en fait, je pense qu'on colle pas à une réalité technique ou scientifique. Mais c'est tout l'enjeu des recherches actuelles aussi, c'est de mieux comprendre comment ça fonctionne et qui pourrait être impacté, effectivement, en cas de coupure, par exemple.
Et simplement, on peut dire sur ce tracé des flux qu'en France, il y a une position très préférentielle et un hub majeur qui est Marseille, parce que Marseille se trouve tout à fait à l'intersection du transatlantique et du Europe-Asie.
Oui, on a la chance en France d'avoir de la trois façades maritimes sur lesquelles il y a des câbles sous-marins. Et effectivement, il y a ce point central. Alors, c'est intéressant parce que typiquement, on pourrait dire que sur les autres façades, il n'y a pas un point d'entrée majeur comme est Marseille. Vous avez plusieurs points d'arrivée de câbles. Et ces câbles-là, par contre, ils vont tous rejoindre Paris. Donc Paris, c'est le point d'entrée de la donnée au niveau européen et au niveau international, un des points d'entrée. Et Marseille, lui, par sa géographie physique, par sa géographie, il concentre finalement effectivement à la fois sa proximité maritime et ce nouveau point d'entrée avec le reste de l'Europe notamment. Donc en France, on a vraiment ces deux points d'entrée de la donnée qui sont ensuite reliés par des autoroutes terrestres de l'information vers Francfort, vers le reste de l'Europe. Donc on a cette chance qui est effectivement à la croisée, donc à la fois des flux vers l'Asie, des flux vers l'Afrique, et puis qui fait relais aussi même plus généralement. Très bien, on a cette liaison entre Paris et Marseille qui suit la ligne de TGD, en fait c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'on a cette infrastructure, cette autoroute de l'information terrestre qui permet de relier les deux blocs entre eux. This must be underwater love. Siamo d'acqua, devi sentir molto parecido a esse amor. This is it, underwater love. It is so deep, so beautifully liquid. Esse amor com paixão.
Alors, maintenant, on peut dire que, donc, précisément parce que ce sont des éléments critiques et stratégiques, et on mesure à la fois toute l'importance et la fragilité de ce truc-là depuis le début de l'émission, mais voilà, ce sont aussi évidemment des éléments qui sont vulnérables dès lors. Et on peut dire, en fait, ça commence très tôt, quoi. En vous lisant, En fait, dès le 19e siècle, il y a des puissances qui cherchent à couper des câbles, à endommager des lignes de télécommunication, parce que, ben voilà, à partir du moment où l'information passe par là, c'est aussi, dans le cadre de conflits plus ou moins directs, ça vaut le coup de se pencher dessus et de les traiter comme des cibles, quoi.
Oui, et donc on en revient effectivement à cette idée que la Grande-Bretagne a été la première à réfléchir à cet enjeu stratégique des câbles sous-marins. À partir du moment où vous possédez effectivement le canal d'information qui va relier plusieurs États entre eux, donc vous n'êtes peut-être même pas destinataire, eh bien vous avez une marge de manœuvre pour savoir ce qui passe par ces câbles éventuellement, pour couper, faire du déni d'accès, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui déni d'accès, etc. Donc c'est un levier important.
C'est pour ça que c'est important d'être la personne qui pose les câbles, soit le nœud, quoi, le hub.
Ou destinataire, en effet, il y a cette idée-là. Et c'est pour ça que dans les câbles, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a une infrastructure qui va relier au moins deux entités entre elles. Maintenant, vous avez effectivement l'acteur qui pose le câble, l'acteur qui le commandite, pour quelle raison, l'acteur qui l'utilise. Et parfois, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est même au-delà du bilatéral, sur du transnational. C'est-à-dire que vous pouvez être, comme la France, récipiendaire d'un grand nombre de câbles sous-marins. Finalement, le contenu, il ne s'arrête pas à votre pays, il ne s'arrête pas à vos frontières. Il va vous dépasser vous-même et puis il y a cette articulation.
Mais par contre, vous avez une souveraineté et vous avez une marge de manœuvre si jamais vous avez besoin potentiellement.
Alors, je parlerai peut-être pas de souveraineté, parce que finalement, c'est des données qui vont vers l'international ou qui arrivent de l'international. Par contre, je dirais qu'en termes d'autonomie stratégique...
Vous avez une souveraineté physique sur le câble.
Oui et non. Je dirais, parce que finalement, ce câble, il va relier d'autres personnes. Alors oui, effectivement, si votre...
Je veux dire, si l'État français décide de couper la fibre entre Paris et Marseille, je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée, mais techniquement, il y a une possibilité. S'il y a plein de pays qui en dépendent, ça va impacter...
Non, tout à fait. Ce qui se fait au niveau terrestre, par contre, on est d'accord, c'est vous avez une marge de manœuvre, parce qu'en plus, cette infrastructure, elle est vraiment sur votre territoire. Là où je faisais écho, c'est vraiment dans l'idée de la perspective d'un câble sous-marin où, de toute façon, son objectif, c'est de relier l'autre, les autres ou l'autre. Et donc, à partir de là, vous ne pouvez pas avoir une maîtrise totale de cette infrastructure, même si vous avez de super acteurs nationaux qui sont en charge de la pose, qui l'ont fabriqué et qui maîtrisent ce rouage. Il y a une inconnue. C'est vrai qu'au niveau terrestre, on a cette maîtrise-là. Et d'ailleurs, c'est un... Les câbles, mais même les câbles terrestres, les câbles de communication, sont des cibles historiques, effectivement, même de sabotage, de la même manière que les voies de chemin de fer étaient des cibles, dans le cadre de conflits ou de tensions, même par des acteurs non étatiques, c'est quelque chose qui est aisé à endommager et qui a un impact assez significatif.
Mais donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous indiquez, donc c'est déjà le cas à la fin du 19e, c'est aussi beaucoup le cas... Et c'est amusant, pendant la Première Guerre mondiale, vous indiquez que non seulement ils coupent des câbles, les Britanniques notamment, ils coupent des câbles allemands, mais même à certains moments, ils les reprennent et ils les rebranchent ailleurs, quoi. Ils les détournent.
C'est quelque chose qui avait été anticipé. Donc, au début du XXe siècle, il y a les états-majors britanniques réfléchissent à effectivement, on a ces infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait? Et si on est en conflit avec tel et tel pays, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait un espèce de plan de guerre ou d'anticipation qui avait été mise en œuvre pour pouvoir, en cas de crise, utiliser ces infrastructures. Et c'est ce qui a été fait, en effet. Et c'est une des premières actions, c'est assez méconnu, mais c'est une des premières actions des Britanniques dans le cadre du premier conflit mondial. Ouais.
Et ça, on sait quelles conséquences ça a eu?
Alors, pour le coup, ça a isolé l'Allemagne. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on parlait des communications vers l'international. Donc, finalement, c'était quand même limité par rapport à l'usage, j'allais dire, du moment. Mais ça l'a vraiment isolé l'Allemagne, puisqu'ils ont coupé donc plusieurs câbles. Aux Açores, notamment. Enfin, les câbles qui reliaient l'Allemagne vers les Açores. J'ai plus en tête Brest. Mais oui, enfin, en tout cas, ça a eu un impact significatif pour isoler le pays au niveau international. Donc à partir de là, il faut trouver d'autres moyens de communiquer. Ça veut dire que dans vos alliances, ça va vous mettre en difficulté. Il faut savoir que quand même l'Allemagne a aussi réussi à agir d'une certaine manière sur ses câbles sous-marins et sur l'information. Et puis vous allez pouvoir faire aussi de l'espionnage. Enfin, en tout cas, vous allez pouvoir intercepter des télégrammes ou des télégraphes qui passent par ces câbles. Et du coup, vous allez aussi avoir connaissance des choses. Et ça va être aussi un autre usage.
Un peu qu'on réussisse à les décoder.
Tout à fait.
Mais alors du coup, puisque restons là-dessus, sur ces possibles, parce que ça peut nous rapprocher d'aujourd'hui, alors c'est-à-dire on mesure assez bien pourquoi on peut intercepter un message télégraphique, puisque c'est un signal électrique, et si on se branche dessus, on mesure qu'on peut saisir les bip, 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 bip. Aujourd'hui, C'est-à-dire dans un monde où il y a des, où on est par fibre optique, etc. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible d'intercepter ce genre de message, si tant est que c'est possible? Est-ce que c'est seulement au point d'entrée et de sortie? Auquel cas, on mesure bien que, par exemple, les États-Unis sont plus ou moins favorisés parce que beaucoup du trafic passe par là. Voilà, quelles sont les capacités à l'heure de la fibre optique d'intercepter éventuellement des messages, enfin de l'information?
Alors, les seuls éléments qu'on a concrets sur ce type d'action, c'est évidemment les révélations Snowden, qui ont montré que les services de renseignement américains et britanniques réalisaient des collectes d'informations à partir des stations de câbles sous-marins, donc là, à terre, de la collecte massive. Donc on est d'accord qu'on est sur une ère où massivement on a un flux d'informations, et ces flux d'informations, ils sont sous forme, quand ils passent dans la fibre, ils sont sous forme lumineuse. Hein. On est sur du binaire, on n'est pas sur un message qui est reconstitué, recomposé, et ça se sera fait à terre une fois que la lumière est arrivée et qu'elle est retransformée. Donc la question qui se pose, c'est effectivement qu'est-ce qui est capté. A priori, de ce qu'on a compris de ces révélations, c'est qu'il y avait des logiciels qui étaient utilisés et qu'il s'agissait de la captation de métadonnées. Donc on n'est pas sur l'interception de messages comme on pouvait l'être à l'époque télégraphique, directement passé ou directement intelligible. Cette métadonnée, elle dit beaucoup de choses, évidemment, mais faut-il pouvoir aussi la traiter. Donc c'est un peu l'idée. On sait que cette forme de renseignement existe, en tout cas, par ces deux États. On se doute qu'il y a d'autres pays.
Ces deux États, donc les États-Unis
et les Royaumes-Unis. On se doute qu'effectivement d'autres pays sont en mesure de le faire, mais finalement, quels sont les États qui sont vraiment capables de collecter cette information, d'avoir aussi, d'être au centre, parce que ça suppose, comme vous l'avez dit, qu'il y a un certain nombre de câbles qui arrivent sur le territoire pour que ce soit rentable. Et surtout, comment ça se fait? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça s'est fait avec la collaboration des opérateurs? Est-ce que ça s'est fait malgré eux? C'est des choses sur lesquels on a évidemment peu d'informations, mais qui sont faisables. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est, en tout cas qui ressort beaucoup dans la littérature, c'est finalement, est-ce qu'on est capable de faire du renseignement, de la collecte en mer sur ces câbles sous-marins? Et là, il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. On peut faire un certain nombre de choses, mais c'est pareil, c'est-à-dire que si vous allez...
Comment on pourrait capturer un flux lumineux à l'intérieur d'un tuyau qu'on coupe
pas ? Il est souvent fait écho d'une torsion de fibre qui permettrait, de manière invisible, de récupérer une partie de la lumière, finalement, et du faisceau lumineux. Mais ça sous-entend que vous êtes en pleine mer, que vous avez déjà une capacité d'aller en profondeur, agir sur ces câbles, de collecter cette information, donc d'avoir un système qui vous permet...
C'est-à-dire déjà que c'est pas facile de le faire au point d'arrivée ou
ça
départ.
Paraît très compliqué. Ou en tout cas, ça paraît compliqué dans un usage massif. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites sur des missions précises, dans des cadres vraiment dédiés, avec un objectif, et sur des câbles qu'on a identifiés, dont on sait qu'ils sont porteurs d'une telle ou telle information, mais ça paraît à l'échelle internationale et à l'heure de ce flux massif de données, ça paraît incroyable, parce qu'il faut pouvoir stocker, je sais pas, à travers, on s'est souvent évoqué, c'est les sous-marins qui pourraient agir, stocker l'information, et puis il faudrait revenir à terre, récupérer cette information et la traiter derrière, ce qui suppose des capacités de traitement d'information, de renseignement tout court, et puis de traitement et de logistique technologique importante.
Oui, mais alors justement, venons-y, parce que du coup, intercepter, on ne sait pas, peut-être un petit peu, mais ça paraît conceptuellement compliqué en tout cas, enfin techniquement en tout cas à l'heure actuelle. Et donc évidemment, l'enjeu stratégique voire militaire, ce serait plutôt de couper, de disrupter, quoi, puisque si c'est un tuyau d'arrosage, ça se coupe, un tuyau d'arrosage. Donc ça, qui sait faire ? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on a beaucoup parlé des Russes, notamment. Enfin, disons, ces compétences-là, est-ce qu'on sait que si quelqu'un les a? Et du coup, parce que ça fait évidemment planer une sorte de menace stratégique sur l'ensemble des communications.
Alors, en réalité, c'est aisé, en fait, de couper un câble. C'est ça qui est assez surprenant. C'est-à-dire que, finalement, vous avez un grappin ou une ancre, vous pouvez endommager et couper un câble sous-marin sans le vouloir ou tout en le voulant. Mais c'est assez facile. La question qui se pose, c'est effectivement, pour agir et de manière discrète, dans un cadre conflictuel, dans un cadre hybride éventuellement, avec des acteurs non étatiques ou étatiques, la question qui se pose, c'est comment agir sur ces câbles. Et alors, effectivement, qui est en capacité de faire? J'allais dire, vous pouvez difficilement aller capter de l'information ou agir sur ces câbles dans les eaux sous souveraineté, parce que c'est plus compliqué, souvent vous êtes dans des eaux peu profondes. En revanche, c'est plus facile de le faire techniquement, dans des eaux où vous avez peu de contrôle, peu de visibilité et vous êtes discret par essence. Donc on est là entre un petit nombre d'acteurs. Maintenant, il y a beaucoup de mythes autour de cette infrastructure parce que le maritime, on ne connaît pas bien, parce que il y a quelque chose un peu d'intrigant dans cette aventure et surtout qu'aujourd'hui, on voit que les technologies pour aller dans les profondeurs se développent et qu'on a de plus en plus un espace qui était inconnu et qui devient maîtrisé ou maîtrisable. Et donc, il y a cette idée que ça devient un nouveau champ et donc que les câbles pourraient aussi faire partie de cette conflictualité dans les fonds marins. Alors vous pouvez, dans le cas de la Russie, on a beaucoup parlé de la Russie effectivement, de la menace en tout cas qui pouvait faire peser sur ces câbles.
Parce qu'il y a aussi depuis, ça fait plus d'un demi-siècle, qu'il y a une aura autour des sous-marins russes quoi, enfin, depuis Octobre Rouge et probablement avant, on aime bien spéculer sur les terribles sous-marins soviétiques puis russes.
Oui, il y a un mystère qui plane aussi là-dessus. Et donc, effectivement, il y a un des capacités sous-marines qui permettrait éventuellement d'aller agir avec des bras articulés et autres, en tout
cas. Parce que c'est ce qu'on a dit, parce que c'est un dossier qui est ressorti, je l'ai dit au début, mais au moment de Nord Stream, on a dit qu'ils avaient des sous-marins qui étaient capables eux-mêmes, des vieux sous-marins qui auraient été reconditionnés pour cette mission, qui auraient été capables eux-mêmes de lâcher des petits sous-marins plus maniables. Ça, qu'est-ce qu'on en sait vraiment ou pas?
Bah, je pense qu'on a un état de l'art, un état zéro de ce qu'il y a et ce qui existe comme technologie. Après, de la manière dont elles sont utilisées, c'est bien le mystère de cette problématique-là. Par contre, il y a des éléments concordants, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui, notamment en termes de navires de surface, là, montrent que des navires russes se baladent, se promènent à proximité des câbles sous-marins, de manière plus ou moins répétée. C'est ce qui a été, en tout cas, mis au jour, notamment par l'OTAN, avec l'idée que c'est ça qui inquiétait, c'est-à-dire que c'était un cumul d'éléments,
notamment
de faisceaux concordants.
En 2015, il y aurait eu un navire de recherche océanographique, je ne sais pas si on entend les guillemets que je mets dans ma voix, russe, qui aurait beaucoup passé autour du golfe de Gascogne, autour de la côte est américaine, c'est-à-dire, bon, c'est pas que ça, mais c'est aussi évidemment les passages des câbles.
C'est ce qui a fait, c'est ce qui a nourri, je pense, alimenté en gros cette question et ce risque en fait sur les câbles, en sachant qu'on n'a pas aujourd'hui publiquement, en tout cas, reconnu à un moment donné vous voyez, la présence de ces navires avec une interruption de câbles ou autre. Donc le mystère a augmenté, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, finalement, c'est peut-être pas pour couper ces câbles, c'est peut-être pour agir différemment. Est-ce que c'est pour écouter? Est-ce que ce qui passe à l'intérieur? Est-ce que c'est pour déposer des objets en mesure d'agir a posteriori sur ces câbles, de faire de l'écoute?
Ah oui,
sur
par exemple,
autour.
Encore une fois, comme ce qu'on a supposé pour Nord Stream, c'est-à-dire on place des explosifs et le jour où on veut le.
Sur commande, plus tard, est-ce que vous pouvez agir dessus? Et là, effectivement, on rentre, et le cas des gazoducs entre en jeu, on est là sur des infrastructures maritimes et donc on est sur la même logique d'action éventuellement, si ce n'est que je pense que on est bien sur un dimensionnement où la haute mer permet ce dimensionnement-là, alors que bon, sur les pipelines, on est souvent sur des formats plus réduits, on sait très bien où ils sont identifiés. Les câbles sous-marins, il y en a plusieurs, ils appartiennent à plusieurs personnes. On n'a pas de cartographie exacte du réseau. Vous avez des cartes en ligne, évidemment, du réseau sous-marin, mais elles n'ont pas de précision. Elles ne sont pas exactes aussi. Il y a des choses qui évoluent et on a de l'information que les opérateurs et les acteurs privés veulent bien nous transmettre. Il y a quelques câbles étatiques, on le sait, mais c'est vraiment très à la marge. Et donc, il y a ce flou, et on voit bien l'intérêt aussi d'agir parce que, alors de manière revendiquée ou non, en tous les cas, cette menace, elle plane au-dessus de cette infrastructure et ça fait parler et ça fait engager aussi des moyens par les autres États. Donc il y a une histoire de réalité, mais il y a aussi une histoire de je suis en mesure d'agir et je vous le montre et c'est de la démonstration de force et je vous dissuade aussi d'une certaine manière d'agir sur d'autres plans parce que je suis en capacité moi-même d'agir.
Et du coup, quelle est l'inquiétude exacte? Parce qu'on peut le dire, mais vous le relevez, mais c'est un truc que les Américains relèvent depuis longtemps, l'OTAN même depuis une bonne quinzaine d'années. Notamment la dimension purement militaire, c'est-à-dire le côté, ben, en fait, les militaires sont comme tout le monde, ils consomment de la donnée, ils en envoient, et ça peut, voilà, du coup, il y a une inquiétude autour des câbles sous-marins. Donc, quelle est exactement, enfin, exactement ou pas, mais quelle est l'inquiétude autour de ça ?
Alors, je dirais qu'elle n'est pas tellement militaire. Alors, elle est militaire parce qu'effectivement, elle concerne des questions de sécurité nationale. Disons que les flux défense, par exemple, ça va être un peu à la marge par rapport à ces câbles sous-marins. Pourquoi ? Parce qu'on va passer essentiellement par du satellite au niveau militaire pour rejoindre les théâtres d'information et la métropole, et pour les usages en mouvement, les bâtiments, etc. Donc finalement, militaire...
Il y a une telle redondance de toute façon que... Bon.
Oui. D'autant plus, mais c'est surtout que voilà, le passage du flux militaire proprement dit par les câbles sous-marins, il en existe évidemment, mais il est minime par rapport à d'autres usages. Il y a les Américains qui avaient montré qu'ils avaient été très impactés, notamment par la coupure de certains câbles.
En Égypte.
Oui, exactement, et dans le trafic des vidéos drones qui devaient relier et qui devaient être analysés.
C'était pendant qu'ils faisaient des exercices ou quelque chose.
Donc c'était très ciblé, donc je pense que.
Et pas un truc criminel ou crapuleux qu'on
non,
pour autant qu'on c'est juste parce qu'en fait, les câbles sont coupés, parce que parfois ils sont coupés, parce que c'est... Voilà,
on sait qu'en tout cas, il y a eu cet impact et que ça avait à un moment donné, au niveau des opérations, posé difficulté. Maintenant, cette difficulté-là, elle est vraiment très à la marge. Et je pense que ce qui est de l'ordre de l'inquiétude, c'est plus effectivement comment est-ce que cette infrastructure, elle est utilisée dans un cadre conflictuel. Et qu'est-ce que ça vient dire ou qu'est-ce que ça vient provoquer en termes d'usage parce que, en fait, vous allez mettre à mal l'économie, vous allez mettre à mal aussi les échanges internationaux entre, même sur les réseaux sociaux, vous allez impacter aussi économiquement de manière importante en privant d'accès à tous les services essentiels, en fait.
Oui, mais Internet fonctionne de telle manière que, je l'ai déjà dit, mais c'était pas qu'il y a de données. Enfin, en gros, un message Internet, il est coupé en morceaux et personne ne sait pas où il passe, mais en tout cas, c'est des morceaux. Ce qui veut dire que, aujourd'hui, à moins que ce soit dans un cas hyper spécifique, la perspective de couper un pays d'Internet, c'est complètement fictionnel. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que ça ralentirait potentiellement suffisamment pour... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scénario où on fait un blackout de la France
pour
envahir par l'Alsace. Quoi. Ça ne marche pas tel que fonctionne l'Internet aujourd'hui.
En effet, c'est plus dans une logique, par exemple, d'isolement de certains territoires. Par exemple, dans les Outre-mer. Je pense pour la France, en tout cas, on réfléchit plus dans cet ordre-là parce qu'il y a un câble, deux câbles, et que si on isole ce territoire d'accès l'information vers l'international, en fait, il a plus vraiment d'autres moyens de communiquer. Donc, vous pouvez ensuite...
C'est difficile de balancer un satellite au-dessus.
Exactement. Vous allez pouvoir permettre de faire rerouter un certain nombre de flux, mais ça va contribuer à l'action globale que vous allez vouloir mener ou à l'action d'influence que vous allez pouvoir mener. Et puis, il y a l'idée aussi que sont des infrastructures, et comme toute infrastructure, en apportant cette infrastructure, si vous l'amenez clé en main à un territoire qui n'a pas les moyens de se payer son propre câble, qui n'a pas les moyens d'investir dans ce câble, qui est finalement peu attractif pour les opérateurs privés, eh bien vous allez aussi pouvoir négocier d'autres choses. Donc on est dans une...
Alors ça, parlons-en, parce que c'est très intéressant. C'est une autre des menaces qui, là, est beaucoup moins directe, mais beaucoup plus... tout aussi stratégique. C'est notamment la Chine, c'est notamment l'inquiétude qu'il y a autour de la Chine. Ils savent probablement couper des câbles comme tout le monde, mais c'est surtout le fait que, notamment dans la zone, appelons ça Indo-Pacifique, il y a un très grand opérateur, enfin un très grand acteur, qui est Huawei, comme pour autre chose, enfin pour plein d'autres données de télécommunication, qui fournit des câbles pas très chers, etc. Et que du coup, c'est une manière aussi de faire des dépendances et des influences pour tout un tas d'États, petits États, et pas si petits que ça d'ailleurs.
C'est exactement cette idée, c'est que les infrastructures servent comme un levier d'influence. Et derrière aussi, il y a la crainte, en tout cas c'est telle que que les anglo-saxons le formalisent, c'est-à-dire que derrière, il y avait le risque aussi de dépendre effectivement d'un acteur plutôt que d'un autre, hein, ou que d'un seul acteur par rapport à tous les autres qui seraient à disposition au moment T. Et donc ces câbles sous-marins aussi, la crainte qui a été suggérée, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir effectivement du renseignement qui est effectué à partir du moment où vous avez un câble qui est posé ou produit par un acteur plutôt qu'un autre. Mais on s'inscrit là dans une guerre commerciale, en fait, aussi, au-delà du diplomatique.
C'est-à-dire, mettons que Huawei pose un câble entre, mettons, les Vanuatu et ailleurs, parce que ça me permet de faire un salut à Jean-Baptiste Jean-Jean Dunemer, l'ancien directeur de l'IRSEM, mais de La peur, c'est que puisqu'ils maîtrisent le câble, ils contrôlent probablement les terminaux de part et d'autre, et donc à cet endroit-là, ils peuvent intercepter un peu à l'américaine, comme ce qui aurait plus ou moins été fait autour des révélations Snowden.
Bah, en tout cas, c'est une des craintes qui est énoncée, c'est de dire que finalement, si vous avez un acteur qui produit ce câble, il peut, by design, introduire des moyens de faciliter l'accès à ces données, de nuire à ces données, ou de mettre en place des systèmes qui permettraient de couper le flux, par exemple, d'empêcher le transit de cette information. Tout ça, c'est
oui,
des craintes.
Sans même récupérer l'information,
sans forcément même
ne serait-ce qu'avoir un coupe-circuit, ce serait déjà beaucoup.
Mais tout est possible. Et après, bon, c'est cette logique-là de les États-Unis ont beaucoup communiqué, enfin les Anglo-Saxons en général ont quand même beaucoup communiqué sur cette, ont sensibilisé beaucoup d'acteurs sur cette menace potentielle. C'est une menace qui fait écho à la menace de la 5G, comme vous le disiez. Alors dans les câbles sous-marins, Huawei a été racheté par Hangtong, un autre géant des télécoms chinois, mais la logique est la même. Et on a cette idée qu'il y a une crainte et qu'on veut faire aussi obstacle à cet acteur privé qui émerge très fortement sur le marché, là où auparavant les îles du Pacifique sont très dépendantes d'Hawaï typiquement et donc des Américains derrière. Donc il y a quand même cet aspect guerre commerciale qui est très important et qui dépasse même le cadre de la conflictualité telle qu'on l'imaginait avec la Russie dans un cadre beaucoup plus opérationnel ou un temps de guerre à proprement dit. Donc tout ça s'entremêle et cette géopolitique-là elle se s'auto-nourrit aussi je pense. Ce qu'on craint, par exemple, avec la Russie aussi, c'est cette idée que symboliquement, si vous isolez un territoire, c'est très fort. Et est-ce que vous pouvez, comment vous allez réagir à ça? C'est-à-dire que on a peu de chances aujourd'hui qu'un État, de manière revendiquée, coupe tel ou tel État, peut-être dans un conflit ouvert en effet, mais c'est relativement peu probable. En revanche, qu'est-ce que vous faites si vous avez des mercenaires ou des gens, des acteurs non étatiques qui viennent couper ce câble et contre lequel vous ne pouvez pas forcément agir? Quelle réponse vous apportez à l'échelle internationale en sachant que même si vous n'allez pas isoler complètement ce pays ou ce territoire, vous allez forcément avoir un impact économique très important, une perte de données, parce que même quelques heures sans un câble, alors au-delà d'un câble, plusieurs câbles coupés de manière simultanée, vous allez créer un déficit dans la communication et un ralentissement de l'activité économique. Et donc ça, ça se chiffre, en tout cas à l'échelle des économies occidentales.
Et du coup, ça nous amène naturellement aux contre-mesures, ou en tout cas aux tentatives de contre-mesures. Donc je l'ai dit, les États-Unis ont très tôt pensé à ça, ça fait plus de 15 ans, avec eux, ben, comme souvent leurs alliés, la Grande-Bretagne, puis... Bon, ce qu'on appelle parfois les Five Eyes dans le domaine du renseignement, mais donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils se protègent de ces deux menaces qui sont... Voilà, il y a la menace un sous-marin russe, et puis il y a la menace aussi dépendance, au système de télécommunications chinois.
Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en œuvre, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier, d'abord celui qu'on a évoqué, sensibilisation, diplomatie. Donc ça, on a vu des campagnes un peu de sensibilisation, notamment des États-Unis, sur plein de pays. Et le levier
donc,
coopération.
En gros, pour dire aux îles du Pacifique que
attention
à ne pas avoir un seul câble et qu'il soit chinois, c'est pas
prudent. Méfiance. Et puis bon, bah, dans l'idée que derrière, il y a aussi un soutien économique, c'est-à-dire qu'on a vu
et
les États-Unis...
Et notre câble, il est moins cher. Et on le mettrait...
S'allier, même faire des coopérations, typiquement, vous évoquez...
Ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis reprochent à la Chine de faire exactement ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, si on se décentre une seconde, les deux font à peu près le même jeu, quoi.
Non, tout à fait. C'est pour ça que je disais guerre commerciale. C'est qu'à un moment donné, où ça dépasse aussi, c'est avec qui on veut bien partager nos données, en fait. C'est un peu ça l'idée. Mais les États-Unis ont opté pour ce volet, donc sensibilisation diplomatique. Aussi, ils ont mis en place des coopérations avec certains États. Vous avez évoqué une forme de coopération avec l'Australie et le Japon, par exemple, pour financer de nouveaux câbles qui font concurrence, effectivement, à ceux qui ont été proposés par la Chine. On est dans le cadre d'appels d'offres, donc c'est assez... Là encore, la frontière entre le privé et le public est assez complexe. On est bien sur des appels d'offres privés avec des entreprises privées, mais on peut avoir plus ou moins l'État derrière et surtout des financements ou des crédits qui sont dégagés par les États qui sont très importants pour permettre à ces îles dont personne ne se souciait finalement d'un point de vue communication il y a quelques années. Aujourd'hui, on se dit c'est important et il faut absolument que le câble qui les relie soit un câble de notre nationalité ou en tout cas qu'on a choisi avec les acteurs qu'on a choisi.
Au moins qu'on en ait un.
Qu'on en ait un aussi. Et le deuxième.
C'est marrant, il y a plein d'îles du Pacifique qui vont se retrouver avec deux câbles, un chinois et un américain. Et ça...
Bon, la question, c'est aussi finalement, on parlait de redondance et de l'importance d'avoir deux câbles. Bon, finalement, je pense que dans un cadre conflictuel, un câble, deux câbles, finalement, vous allez couper les deux. Enfin, on imagine bien que c'est pas ça qui va changer la donne. En revanche, dans la perspective, effectivement, de maintenir par rapport à des dommages même naturels, j'allais dire des séismes sous-marins, etc. Et on sait la complexité de. Géologique dans le Pacifique et les risques naturels qui s'y posent, ça a du sens de créer cette redondance. Maintenant, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la spéculation. Et le deuxième levier important, c'est le levier normatif. Les États-Unis, notamment, font obstacle donc, à cette menace chinoise, typiquement en refusant. Donc, les États-Unis, c'est un des rares pays à avoir quand même un système assez contrôleur, on va dire, en termes d'arrivée de câbles sous-marins. Donc, ils ont une enceinte en fait hein, interministérielle qui gère, qui regarde scrupuleusement toutes les demandes de pose de câbles par les acteurs privés et ils se sont opposés à plusieurs reprises à des câbles notamment qui arrivaient soit de Chine, soit qui étaient portés par, en tout cas dans lesquels des acteurs chinois avaient une partie prenante dans l'investissement ou dans la production de ces câbles. Et donc ils le font, ça c'est sur les câbles qui arrivent sur leur territoire, sur lesquels ils peuvent refuser, donc on voit qu'il y a eu plusieurs refus.
Mais en même temps ils ont besoin d'être aussi très intensément connectés à la Chine, donc enfin...
Alors oui, après on peut se dire aussi que les États-Unis sont déjà de toute façon bien connectés globalement. La question c'est finalement est-ce que cette politique-là va pas conduire à recentrer la carte à terme ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez plus d'une cinquantaine de câbles qui arrivent aux États-Unis, ils sont largement au centre physique encore de ce réseau. Est-ce que finalement en limitant l'accès d'un acteur, en discriminant un acteur, en discriminant des territoires ou des destinations, effectivement vous n'allez pas mettre en péril ainsi aussi votre propre stratégie. Et c'est pour ça que je pense que tous ces leviers-là, économiques, juridiques ou en tout cas les leviers normatifs, se cumulent et tout ça fait partie d'un ensemble sur lequel il propose aussi des nouveaux... en tout cas, il s'attache à ce qu'il y ait de nouvelles propositions, de nouveaux tracés de câbles sous-marins qui soient possibles aussi et qui vont passer par les Philippines, par l'Indonésie, par le Japon, en lieu et place de relier directement la Chine ou les territoires sous contrôle ou en tout cas par volonté.
Et j'ai lu aussi, j'ai appris aussi en vous lisant qu'ils ont quand même des trucs très protecteurs, mais pas que, hein, la Grande-Bretagne aussi, sur les... J'allais dire des eaux territoriales, mais enfin, en tout cas, sur les tracés des câbles, il y a des zones qui sont très interdites, ou en tout cas très contrôlées, pour protéger, en quelque sorte, le tracé de leur câble. Mais ce qui est à la fois intéressant et en même temps un peu... Bon, si on veut couper un câble, on peut le faire en haute mer, donc je ne sais pas à quoi ça...
Alors, je pense que ça fait partie de... Et là, c'est un peu l'idée qu'il y a une politisation du sujet aussi, donc c'est un sujet qui, finalement, on a peu d'actes concrets, mais on se pose beaucoup de questions, et il est important que les puissances se positionnent, finalement, sur ce sujet, pour montrer qu'elles ont pris la mesure du rôle de ces câbles et de ce qu'on peut en faire. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de discours et de positionnements, il y a une mise à l'agenda aussi, de ce sujet au niveau des organisations régionales et internationales, et ça c'est important et il faut s'être positionné. Donc je pense qu'il y a des mesures aussi qui sont prises parce que politiquement il faut afficher un certain nombre de choses. Après effectivement il y a plein d'États qui restreignent les permis attribués aux acteurs privés, que ce soit pour aller réparer ces câbles par exemple. Alors on pourrait dire quel intérêt de restreindre alors qu'on a tout intérêt à ce que le câble soit réparé plus vite. Souvent en arrière-plan il y a l'idée de favoriser par exemple des acteurs locaux. Donc vous allez restreindre...
Une sorte de souveraineté.
Exactement. De faire en sorte que des acteurs locaux émergent sur le marché de la pose et de la réparation. Donc vous allez dire finalement, moi je veux bien qu'on vienne réparer mon câble, mais ce sera forcément un navire sous pavillon national. Et puis vous avez l'idée effectivement je pense que cette crainte, cette menace, c'est parce qu'on s'en fait une représentation qu'elle existe et que les acteurs se positionnent dessus. Donc maintenant vous avez un certain nombre d'États aussi qui sont en mesure de dire, ah, on va peut-être refuser ce câble parce que c'est un câble dans lequel il y a des acteurs chinois dedans. Alors que ça fait 20 ans qu'il y a des acteurs, il y a des câbles qui sont posés avec des consortiums dans lesquels participent des acteurs chinois. Donc voilà, tout est une question aussi de construit dans la représentation qu'on s'en fait de ces acteurs-là et des menaces.
Ça devient quasiment un truc d'affichage plus que de...
J'allais dire, juste pour rebondir sur les leviers par exemple qui sont mis en place, il y a quelque chose qu'a fait le Royaume-Uni il y a peu de temps. Le Royaume-Uni il y a des États qui évidemment améliorent la protection de leurs câbles, notamment en pénalisant davantage dans leur système juridique l'atteinte aux câbles sous-marins, mais là ça va valoir que sur les eaux sous souveraineté. Et il y a aussi le Royaume-Uni a notamment limité le transfert de technologies très ciblées. Alors là il y a eu un ou deux textes qui sont passés qui visaient très franchement la Russie, hein, c'était affiché comme ça, et pour éviter que des technologies qui sont utilisées plutôt dans le domaine des entreprises privées pour les réparer ces câbles, soient effectivement vendues à l'international et pour contrôler ce transfert de technologie, alors même que c'est une technologie qui appartient en fait aux acteurs privés aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a aussi ce cadre normatif qui existe et qui contraint beaucoup à l'échelle internationale.
Et la France quand même dans tout ça, alors on l'a dit, il y a des ambitions qui sont relativement récentes à l'échelle du problème, enfin je l'ai dit, ça fait plus de 15 ans que les États-Unis en tout cas s'agitent dessus. La France, ça fait un an, un peu plus, qu'il y a une stratégie. Bon, je l'ai dit, ça monte dans la LPM et dans la RNS qui l'a précédée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est un retard ? Est-ce que, au fond, puisque vous l'indiquez, il y a aussi largement un truc d'affichage, est-ce que c'est si grave que ça de ne pas s'être positionné dessus avant ? Voilà, que penser, disons, de la place et de l'émergence de la France, en tout cas des capacités de la France dans ce domaine-là ?
Je crois qu'il y a une part de on est bien lotis, et donc comme on est bien lotis, il n'y a pas de question qui se pose.
En termes de distribution et de
connexion. En termes de distribution géographique, on est au centre d'un certain nombre de réseaux, donc on n'est pas en déficience au niveau de la métropole en tout cas, et au niveau des industriels, on a des industriels sur quasiment les trois segments qui sont bien représentés, et donc finalement, tant qu'il y a les choses qui vont pas bien, on les soulève pas aussi et on se dit pas tiens ça va bien. Donc je pense que il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que ce secteur soit passé entre les mains des acteurs privés au niveau des années 90, la connaissance de l'État de cette infrastructure et de la maîtrise par l'État de cette infrastructure, c'est délité, c'est une évidence pour moi. En tout cas, moi, c'est le fruit de mon travail de recherche, c'est mes conclusions. Maintenant, il y a eu aussi cette idée qu'il y a plusieurs phénomènes depuis les années 2010 qui ont contribué à effectivement repolitiser ce sujet, le faire réémerger comme un vrai questionnement politique sur lequel il faut avoir des réponses. Ça, c'est tout simplement l'arrivée des géants du net, les câbles sous-marins, c'était silencieux, on n'en parlait pas. Et puis d'un coup d'un seul, on commence à en parler beaucoup parce que c'est beaucoup d'argent, c'est impressionnant. Et puis en fait, c'est quelque chose qui est méconnu et dont se saisissent les GAFAM pour communiquer. Et puis, il y a les révélations Snowden aussi qui ont peut-être fait basculer un certain nombre d'États, les ont alertés. Et en fait, on se rend compte que là, le positionnement de la France, historiquement, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que même à l'époque télégraphique, il y a des moments où en fait, il y a un désintérêt politique pour ce sujet-là. Et puis, il y a des... c'est vraiment, en termes de mise à l'agenda, en termes de politique publique, c'est intéressant. On voit qu'il y a quelques éléments contextuels, des conflits. On parlait de la guerre hispano-américaine, même si la France n'était pas directement concernée, c'est des choses qui ont contribué, la guerre des Boers notamment aussi, qui ont contribué à éveiller le politique ou le législatif et qui ont ensuite fait donc émerger ce sujet comme un sujet dans lequel il faut se saisir et dans lequel on va dégager des crédits derrière. Et on voit qu'au cours du temps, en fait, ça fluctue. Il y a vraiment des périodes importantes d'intérêt pour cette infrastructure et d'autres où l'État se désintéresse. Et je pense qu'effectivement, le boom d'Internet, ça concernait les acteurs privés essentiellement. Aujourd'hui, on a commencé à reparler de la souveraineté du numérique. On se réapproprie aussi la compétition maritime réémerge. Et donc, c'est un sujet qui fait parler et qui pose des questions, même en termes effectivement militaires aussi, de comment est-ce qu'on les protège, comment on les défend. Et là, on se dit, ah oui,
on a dit qu'on ne pouvait pas les protéger.
On ne peut pas les protéger complètement, non, ça c'est sûr. Est-ce que ça a du sens aussi ?
Et que le seul moyen, c'est la redondance. Enfin,
En tout cas, c'est l'optique qu'a choisi la France aussi. Ça apparaît clair dans les différentes mesures qui ont été prises aussi depuis. Il y a eu un renforcement législatif, donc on a augmenté la sanction pénale en cas de coupure de câble dans les eaux sous souveraineté. On a également favorisé... une logique d'attractivité des câbles sous-marins sur le territoire national, en disant finalement, exactement, on ne pourra pas protéger ces câbles en entier, ça n'a pas de sens même d'aller protéger des infrastructures qui relient d'autres pays. Donc il faut qu'on soit plutôt sûr que la métropole et les Outre-mer aient une capacité de s'en sortir, même s'il arrive ou il advient une difficulté, qu'elle soit naturelle ou conflictuelle. Donc c'est plutôt la logique, effectivement, dans laquelle s'est engagée la France sur ce sujet.
Oui, ou éventuellement, enfin, je ne sais pas, mais comme ça, on peut entendre, de résilience, quoi, de la capacité à à réparer, à reposer un câble rapidement, ça on peut imaginer, mais ça paraît complètement impossible de faire des petites murailles de Chine autour de chaque câble, ça a pas de...
Oui, et puis c'est pas la logique dans laquelle on s'inscrit aussi, c'est-à-dire qu'on reste sur une infrastructure qui est mondialisée, avec une économie mondialisée, donc on peut pas... il y a que les États plus autoritaires qui du coup s'engagent aussi dans des mesures plus restrictives, c'est pas l'idée de la France, et en tout cas il y a bien cet engagement à effectivement diversifier les acteurs aussi, et conserver par contre, ça c'est aussi un axe important, conserver les fleurons nationaux, que ce soit dans la production, garder des acteurs aussi qui sont en mesure de poser des câbles et de les réparer en autonomie, comme on l'indiquait au début de l'émission, et puis également d'investir
c'est
dedans.
C'est qui en France ?
Alors, sur la production, on a
Alcatel
Submarine Networks, exactement. Y a, au niveau des poseurs et des répareurs de câbles sous-marins, on a donc à la fois une filiale d'ASN qui s'appelle ASN Marine, on a également Orange Marine, qui est une filiale d'Orange, et dans les opérateurs de communication qui investissent largement, et notamment qui ont pris le tournant de l'arrivée des GAFAM, on a Orange aussi, qui est un investisseur, un backbone provider, donc un investisseur dans la bande passante à l'international, et donc dans les câbles sous-marins.
Bon, donc on n'est pas si mal lotis, on fait moins que les autres, mais peut-être qu'on fait déjà assez.
On fait bien.
Merci beaucoup Camille Morel.
Merci.
C'était donc Le Collimateur, je rappelais simplement les références de votre ouvrage qui est paru il y a quelques semaines chez CNRS Éditions, intitulé donc « Les câbles sous-marins ». C'est donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme appréciations, commentaires, notes, etc., etc., notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Tout ça est lu avec attention. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com